Bonjour à toutes et à tous, auditrices, auditeurs, cinéphiles, passionnés, festivalières et festivaliers, en effervescence, amoureux et amoureuses du 7e art, bienvenue dans votre journal des rencontres, à l'occasion des 27e rencontres des cinémas d'Europe. À l'antenne avec vous aujourd'hui, Milo en service civique au cinéma des Vences. Bonjour Milo.
Bonjour à tous.
Et à nos côtés, notre invitée du jour, Sarah Camidian.
Bonjour
Sarah.
Bonjour.
Qui va nous partager les différentes facettes du métier de la coordination d'intimité, une profession qui a pris de l'ampleur depuis ces 10 dernières années et qui devient indispensable dans l'industrie cinématographique et audiovisuelle et théâtre, et qui nous parlera de son expérience au centre Le Bourneau à 14h. Vous êtes intervenu hier après le documentaire Sexy is Comedy, la révolution des coordinatrices d'intimité, diffusé au cinéma Le Navire, qui retrace l'émergence de cette profession à l'écran. Il montre notamment comment votre métier est devenu indispensable après l'affaire Weinstein en 2017. Alors, j'ai une question, cette première question pour toi, Sarah. Mais alors, qu'est-ce que le métier de coordinatrice d'intimité? Et parce que c'est un peu vague pour nos auditeurs, auditrices. Et qu'est-ce que tu peux nous expliquer de ce métier?
Ouais, je comprends que ce soit un peu vague. Effectivement, c'est un métier un peu qui regroupe plusieurs casquettes. On peut dire que si je dois résumer en une phrase, je vais être la personne sur un plateau de cinéma, avant, pendant et après le tournage, qui va veiller à ce que les personnes qui travaillent aux scènes d'intimité travaillent dans un cadre le plus sécurisant possible. Ça, c'est la grande ligne. Voilà. Maintenant, ça veut dire que je suis spécialisée dans la chorégraphie de scènes d'intimité. Scènes d'intimité, ça peut inclure tout ce qui est lié à de la nudité, du sexe simulé, mais aussi des violences psychologiques. Du contact physique avec un adulte et un mineur. Ça peut être aussi tout ce qui est lié à l'identité intime des actrices qui vont jouer la scène. Donc ça peut être très vaste.
Ok, et en quoi ce métier il joue un rôle essentiel dans le domaine cinématographique, audiovisuel, théâtre, à l'heure d'aujourd'hui en tout cas?
C'est un métier en fait qui a un peu toujours existé de manière pas officielle, officieuse. Et c'était rempli, c'était porté par des petites mains, des habilleuses, des costumières, des personnes au maquillage qui prenaient soin de checker les interprètes avant, après les scènes difficiles. Mais c'est un métier aussi qui a été crédité pour la première fois au cinéma qu'en 2017, avec Alicia Rodis, qui était une ancienne cascadeuse, et on lui a demandé de faire coordinatrice intimité pour la série The Deuce de HBO. Et l'idée de ce métier, c'est de prendre en charge la facilitation et la coordination du travail sur des scènes difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en contact, dès que j'ai lu le scénario, avec les personnes qui sont à la réalisation, les personnes qui vont jouer, mais aussi tous les départements qui peuvent être concernés par les scènes d'intimité, comme costume, comme cascade, ça peut être aussi l'image. Je vais aller questionner tout le monde pour être sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde, qu'on parle de la même chose, que la phrase qu'on a lue dans le scénario, elle est visuellement comprise par tout le monde et de la même manière. Et ça, avant qu'on tourne, pour que le jour J du tournage, il y ait peu de place laissée à l'improvisation, ou bien que le cadre de l'improvisation il ait été validé en amont.
Super intéressant. Et en gros, tu fais un check-up de tous les services, si je comprends bien.
C'est ça. Je vais vraiment, je lis le scénario, j'appelle d'abord la personne qui est à la réalisation, et puis ensuite j'appelle les actrices pour leur demander comment ils ont perçu les scènes qu'ils vont jouer. Et puis, quels sont déjà les besoins et leurs limites par rapport à ça? Si la scène, c'est une scène de nudité, quelle partie du corps ils ne veulent pas montrer? Si la scène, c'est une scène de sexe simulé, quelle partie du corps ils ne veulent pas du tout qu'on touche, par exemple? Ça peut être, je ne veux pas qu'on touche mes pieds parce que je suis très chatouilleux. Ben, en fait, si on ne dit pas cette info, si je ne la transmets pas à la réalisation, en fait, dans la chorégraphie, il peut y avoir des petits couacs et ça peut juste sortir l'actrice du jeu. Donc moi, je veux faire en sorte que tous les quiproquos, les imprévus, les zones de flou, elles disparaissent pour que le jour J, vraiment, on soit hyper ready. Mais ça peut pas se faire sans que j'ai une conversation avec la personne à la réalisation en premier lieu.
Ce qui paraît normal.
Ouais.
Quels sont les atouts majeurs aujourd'hui pour faire ce métier?
Les atouts.
Les qualités, peut-être
Ben, je vais parler plutôt de compétences.
Oui.
Il y a une longue liste de... enfin, que je trouve longue et encore heureux pour être à ce rôle. Je pourrais en citer plein, mais je vais essayer d'être un peu concis. Il faut une formation spécifique en chorégraphie de scènes d'intimité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis chorégraphe, mais spécifiquement aux scènes de sexe simulées. Je ne suis pas chorégraphe comme un danseur, une danseuse, par exemple. Donc, en fait, ça nécessite vraiment une vision d'une choré très pertinente par rapport à ce qu'on demande. Et donc, c'est vraiment avoir une idée de comment faire semblant le mieux possible pour des scènes de sexe simulé. Ça, il y a aussi tout ce qui est lié à un bagage, avoir un bagage en termes de lutte contre les discriminations, comprendre un peu dans quel monde on se joue, dans quel monde quand on arrive sur le plateau, qu'est-ce qui se joue dans les rapports de pouvoir, comprendre quelles sont la réalité des personnes qui vont être LGBTQIA+, neurodivergentes, des personnes qui ne sont pas forcément dans la norme, mais qui peuvent se retrouver sur le plateau. Ben, j'ai besoin d'avoir un peu un historique et une compréhension de ces luttes-là pour pouvoir aider tout le monde dans toutes les facettes de leur identité. Il va y avoir ça, il va y avoir une connaissance et un ancrage en lutte antiraciste aussi. C'est hyper important dans le contexte actuel européen occidental. Il va y avoir tout ce qui est lié au premier secours en santé mentale. On n'est pas psychothérapeute, on est là pour éventuellement agir en moment de crise. Mais donc il faut avoir des connaissances de comment je peux aider quelqu'un pendant une crise d'angoisse, pendant une crise de troubles du comportement alimentaire, pendant une décompensation, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut apprendre. Et puis il y a tout un volet de gestion de conflit, savoir comment sur un plateau de cinéma je peux naviguer dans les relations interpersonnelles en prenant un peu en compte quel background il y a, ou bien en sachant comment communiquer de manière juste très claire pour que tout le monde puisse travailler malgré des différends. Voilà, ça c'est vraiment les minimums requis, quoi.
Moi, dans ma tête, t'es un petit peu, si on pouvait prendre dans le cadre d'une entreprise, t'as les ressources humaines et t'es une filière de la ressource humaine. Enfin, t'es un onglet, un sous. Voilà, et c'est hyper intéressant. C'est comme si on pouvait découper plein de petits métiers comme ça qui ont tous son importance et qui relient dans les ressources humaines.
Oui,
pour les gens
ça.
Qui n'arrivent pas à imaginer, en tout cas dans le cadre d'un plateau de cinéma ou autre qui n'auraient pas l'habitude. Milo, est-ce que t'aurais une question qui te vient à l'esprit ?
Alors, moi, j'aimerais savoir comment es-tu arrivée à faire ce métier ? Quel parcours t'as entrepris, toi, personnellement ?
Moi, je viens du montage. Je viens de France, j'ai grandi en France, mais j'ai bougé en Belgique pour faire une école de cinéma, l'INSAS, à Bruxelles. Et je travaille en Belgique en grande partie. Mais du coup, j'ai commencé par me former au montage. Donc voilà, j'ai fait 5 ans d'études, j'ai commencé à travailler en post-production en tant que monteuse, en tant qu'assistant monteur, script parfois un petit peu aussi. Mais rapidement, ça ne m'a pas convenu. J'ai découvert qu'après 5 ans à étudier un métier où je restais devant mon ordinateur toute la journée, ça ne me convenait pas et j'avais besoin de revenir au plateau. Et j'ai découvert ce métier avec la série Normal People, qui avait une équipe de coordination d'intimité solide, avec notamment Ita O'Brien, qui est un peu une des stars, une des figures phares de la coordination d'intimité dans le Royaume-Uni. Et j'ai trouvé les scènes d'intimité, les scènes de sexe simulées exceptionnelles. Je les ai d'abord entendues avant de les voir, d'ailleurs, parce que j'avais un ami qui les regardait alors que j'étais à côté, et moi je faisais juste écouter. Et juste la qualité des dialogues pendant les scènes de sexe m'a juste laissée sans voix. Et j'ai commencé à regarder la série, je me suis dit, c'est juste brillant ce qui se passe, et on a besoin de ça. Donc je me suis renseignée sur ce métier, et puis j'ai fait la rencontre de Paloma Garcia-Martens, qui est la coordinatrice d'intimité dans Sexist Comedy, dont tu as parlé, qui est devenue d'abord une amie, et puis ensuite qui m'a permis de mieux comprendre c'était quoi le métier, et surtout de m'orienter vers des formations qui, à l'époque, m'étaient accessibles. Donc ça veut dire en anglais, en ligne, et pas trop cher pour mon budget de l'époque. Mais donc, il faut imaginer que j'étais déjà insérée professionnellement dans le cinéma, j'avais déjà un revenu plus ou moins fixe, j'avais les moyens financiers pour financer ma formation. Là, en fait, pour moi, c'est compliqué de résumer. Il n'y a pas une formation un peu unique pour la formation d'intimité, on doit faire sa popote, même si Là, en septembre 2025, l'AFDAS vient de sortir la première formation certifiante en coordination d'intimité, pilotée par Paloma Garcia-Martens et Monia Aitelaj, et c'est une formation de qualité parce qu'elle est faite par des personnes concernées. Donc, c'est un peu la seule formation francophone en Europe que je connais. Enfin, c'est la seule pour l'instant. Mais il y a d'autres manières de se former comme ça. Et donc, ma formation, ça a été majoritairement en anglais, en ligne, par des organismes nord-américains. Et puis, dès que je pouvais, c'était des processus de mentoring, et c'est toujours le cas, avec des personnes qui font déjà ce métier depuis plus longtemps, comme Paloma. Voilà.
On parle notamment de la CIFAP dans le documentaire, si je ne me trompe pas, qui propose c'est une formation, alors moi ça me paraissait court, c'est une formation de 35 heures.
C'est en 3 jours,
ouais. Ouais, en 3 jours, ça oui. Me paraît court. Non,
c'est pas du tout une formation, alors je vais être un peu... strict comme ça, c'est pas une formation certifiante, okay. C'est une formation d'initiation. Voilà, donc c'est bien pour si on a envie de comprendre un peu ce que c'est, mais on sort pas de cette formation avec suffisamment d'heures de travail et d'apprentissage pour pouvoir faire ce travail à la sortie. Voilà.
Ok, et il faut avoir dans ce domaine, enfin, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir des prérequis dans le cinéma ou autre pour faire ce métier? Par quelle porte tu rentres? Parce qu'en fait, là, on parle aux auditeurs, auditrices qui voudraient, admettons, faire ce métier, peut-être, aux jeunes. Mm-hmm. C'est quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Donc, il faut imaginer que c'est un travail qui peut paraître solitaire parce qu'on est souvent seul sur les plateaux, mais en fait, ça ne se fait pas sans ta communauté, sans la communauté des coordinatrices d'intimité qui font déjà ce travail, qui ont déjà réfléchi à comment on travaille sur plateau, en danse, au théâtre, au cinéma, peu importe. Et donc, moi, ce que je conseillerais, c'est d'arriver à se rapprocher de cette communauté en sachant que c'est des personnes qui souvent... C'est pas non plus évident de vivre de ce métier. Donc on conseille d'avoir plusieurs bagages, plusieurs baguettes et cordes à son arc, et pas de compter sur cette seule activité pour le faire. Et puis surtout, effectivement, c'est quand même un gros plus de pouvoir déjà être inséré ou d'avoir une expérience de plateau, en fait. Et les plateaux de cinéma, on peut les retrouver en école de cinéma, par exemple, où c'est assez facile d'avoir des expériences de stage ou des expériences de renfort en régie, etc., où il n'y a pas besoin d'avoir des compétences hyper élevées pour être sur le plateau et pouvoir juste constater comment ça se... C'est quoi la mécanique d'un plateau? C'est quoi le rythme d'un plateau? Moi, je conseillerais de vraiment essayer de trouver des personnes qui ont besoin d'aide au cinéma. Je ne conseille pas de travailler gratuitement, à moins d'un stage qui puisse valider quelque chose. Mais voilà, il y a des moyens de déjà avoir des expériences de plateau sans forcément passer tout de suite par la coordination d'intimité.
Ok, merci pour ta réponse qui pourra apporter en tout cas à ceux qui nous écoutent un éclaircissement sur une ouverture vers ce métier-là. Dans le film, on parle d'une révolution éthique. Est-ce que, selon toi, la coordination d'intimité est seulement un métier moral, protecteur, ou aussi un métier artistique? Ce que je te disais tout à l'heure en off. Comment tu vois ton métier? Parce que tu as fait du montage, donc il y a ce côté artistique, bon, technique également. Comment tu vois les choses?
Donc pour moi, c'est un métier à 100% artistique. J'ai une casquette de consultant à la chorégraphie, consultant à la mise en scène, mais de scènes d'intimité spécifiquement. Ça veut dire que mon but, c'est pas juste d'être garant d'un cadre de travail. Je suis aussi là pour que vraiment juste la scène, elle soit hyper sexy. Je suis là pour que la scène, comme la scène de Norma People, tu vois, j'ai vu les scènes et... Enfin, je me suis dit, mais c'est hyper sexy, c'est super bien amené, les personnages sont hyper cohérents, j'ai jamais vu ça. J'ai envie que les scènes sur lesquelles je travaille, elles fassent preuve de nouveauté, de curiosité et de challenge aussi, de prise de risque. Donc je suis vraiment pas là pour être garant d'un cadre moral, etc. Je suis pas la police des bonnes mœurs, je suis là pour aider tout le monde à se sentir capable de s'auto-gérer, de s'auto-réguler, de défendre ses besoins, ses limites. Je suis pas là pour penser à la place des gens et je suis pas non plus dans la prise de décision, sauf si c'est de l'ordre de la sécurité physique et psychologique des personnes. Ça veut dire que je suis pas là pour dire au réel, ne fais pas ça. Je suis là pour dire, si tu fais ça, le risque c'est que, comme un consultant en cascade, Si tu fais une cascade de 3 mètres de, avec un saut de 3 mètres de haut, sans matelas, sans protection et une personne qui n'est pas entraînée, le risque, c'est que ton comédien se fasse mal. Ben, c'est la même chose quand tu ne répètes pas tes scènes d'intimité ou quand tu ne laisses pas du temps aux actrices pour comprendre et discuter avec toi de c'est quoi les enjeux de la scène, comment on va la faire précisément. Est-ce que ça répond à ta question ?
Oui, tout à fait. Alors je précise, si vous entendez des bruits autour de vous, c'est qu'on est en direct, et je ne l'ai pas précisé, en direct de la médiathèque sur Aubenas, et c'est une première pour nous. Et en fait, logiquement, peut-être autour de nous, il y aura des invités qui pourraient intervenir sur le plateau s'ils ont des questions.
Oui, voilà, je précise. On vous attend.
Milo, est-ce que tu as une question également ?
Alors, tout à l'heure, tu as expliqué un petit peu que c'était à partir du moment où le scénario était écrit que le réalisateur te contactait. Mais moi, je me demandais donc à partir de quel moment il prenait contact avec toi et qui prend contact avec toi en première chose.
C'est une bonne question. Donc, la responsabilité en tant qu'employeur au cinéma, c'est celle des productrices. Hein. C'est celle des boîtes de production qui mettent en place toute une équipe pour travailler au mieux, et c'est elles qui font l'état des risques par rapport à leurs employés, quoi, des risques pour leurs employés. Donc, logiquement, c'est la responsabilité incombe plus aux productions. Maintenant, ça m'arrive que ce soit des réalisatrices qui m'appellent directement, notamment en école de cinéma, où la production de l'école ne m'appelle pas pour me dire « il y a un film avec telle scène ». Là, c'est plus les réalisatrices qui m'appellent. Ça peut être aussi des actrices qui me disent « en fait, la scène, elle est dans 3 jours, j'ai vraiment besoin d'aide, on n'a pas fait appel en amont, est-ce que tu peux venir en urgence ?» Donc je peux intervenir à n'importe quel moment, à partir du moment où il y a un scénario, à partir du moment où on se pose la question du scénario même, pour analyser un peu les biais qu'il y a à l'écriture, mais aussi en post-production. Je peux intervenir juste pour une session de doublage, de scènes de sexe, parce que en fait c'est un petit peu intimidant quant à tes collègues de faire des cris de jouissance, etc. Donc moi je peux intervenir pour désexualiser tout ça, pour essayer de trouver des manières fun d'avoir une oralisation des scènes de sexe sans que ça te mette hyper mal à l'aise par rapport à tes supérieurs par exemple. Et puis ça peut être vraiment à n'importe quel moment tant que moi j'ai l'espace-temps nécessaire pour faire mon travail correctement. C'est plus moi, ça, la question que je me pose, quoi.
Ok, merci beaucoup pour ta réponse.
Après, si je peux réagir, c'est presque social aussi. Enfin, le sexe est tabou dans la société, donc c'est vrai que c'est compliqué de déconstruire tout ça. C'est ton but, justement, il est là, on l'entend avec ta réponse. Et c'est justement, c'est pour ça que c'est hyper important à l'heure d'aujourd'hui.
Tu peux rebondir là-dessus ?
Ah ouais, vas-y.
Effectivement, quand je dis scène d'intimité, j'ai vraiment envie d'inviter les auditrices à penser très large, le plus largement possible, dans la mesure où, pour moi, l'intimité, elle n'est pas universelle. On ne peut pas deviner de ce qui est intime pour une personne. Peut-être pour moi, c'est déjà intime qu'on me touche les cheveux. Pour une personne, ça va commencer à une autre partie du corps. Peut-être que tenir la main, pour moi, c'est beaucoup plus déstabilisant que faire un câlin, etc. etc. Donc vraiment, ce métier, il est là pour rappeler que penser à la place des autres, ça va probablement amener des problèmes sur un plateau ou sur une mise en scène, etc. Et que créer des espaces pour donner de l'agentivité à tes interprètes, en fait, c'est vraiment la manière la plus intelligente de collaborer sur des scènes sensibles. Et ce qui n'est pas sensible pour toi ne l'est peut-être pas pour ton camarade. Ça peut aussi être que ton équipe technique, par exemple ton ingé son qui toute la journée va entendre des cris dans son oreille parce que c'est une scène de violence sexiste et sexuelle, en fait il va peut-être galérer à travailler comme ça pendant une semaine. Moi je suis aussi là pour pas seulement penser aux interprètes, pas seulement penser aux interprètes féminins, c'est vraiment peu importe le genre de la personne, je suis là pour me dire ok, en fait je dois penser au plus de personnes dans la pièce, y compris les personnes qui pensent pas que je travaille pour elles. Donc, je vais aller aussi interroger l'ingé son, la personne à l'habillage, pour juste savoir, ok, est-ce que tu sais de quoi la scène elle sera faite ? Est-ce que tu as des besoins par rapport à ça ? Est-ce que, entre les prises, tu as des petits trucs, astuces pour toi, pour revenir un peu à un système nerveux plus calme et plus assuré, et assuré toute ta journée ? C'est vraiment très large, en fait, notre spectre de travail.
Et tu as déjà été confrontée à des réticences avec des réalisateurs ou des équipes justement techniques qui craindraient que ta présence bride le côté artistique du film, hein.
Oui, ça fait partie du travail, hein, d'avoir des personnes qui ont des appréhensions. Mais en fait, moi, je pars du principe que quand on a des appréhensions, c'est qu'on ne comprend pas bien. J'ai jamais eu de personne qui, après explication de c'était quoi mon travail et comment on pouvait travailler... Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui dicte comment on peut travailler. Hein. C'est moi, je propose des choses et je fais en fonction de ce qu'on me donne, comme espace, comme temps, comme argent aussi. Donc, c'est de la collaboration. J'ai jamais eu de cas où on n'a pas réussi à trouver un cadre de travail qui convenait à tous. Et j'ai jamais eu de cas où les acteurs ils se sont dit « je ne veux pas travailler avec cette personne », mais ça arrive. Et moi, dans ces cas-là, j'essaie de pas le prendre personnellement parce que, comme tu l'as dit, c'est un métier encore assez récent. Et surtout, c'est aussi un métier où on n'est pas sûr de comprendre ce qu'on peut attendre d'une coordinatrice d'intimité. Donc, si j'ai le temps, je vais prendre le temps d'expliquer au mieux et de comprendre comment je peux aider précisément cette personne et pas une autre à la réalisation. Mais parfois, le temps peut manquer, les conditions peuvent manquer. Parfois, je ne suis pas la bonne personne aussi pour travailler sur ce projet en particulier. Ça m'est déjà arrivé de refuser des projets parce que je pense que je n'étais pas la bonne personne. Je crois qu'il faut aussi faire preuve d'humilité dans ce métier qui a beaucoup de pouvoir et de responsabilité. En fait, si le scénario il me semble loin de ce que je peux apporter... Je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre, peut-être, de plus pertinent, quoi. Ça m'est déjà arrivé aussi de travailler avec des actrices sur une première scène. J'avais une deuxième scène un mois plus tard. La première scène s'était bien passée, mais j'avais aussi cru comprendre qu'ils étaient plutôt à l'aise. On avait bien travaillé en prépa, voilà. Et un mois après, je me suis dit, en fait, la scène est encore moins difficile et sensible. C'est vraiment pas grand-chose. Par rapport à ce qu'on a fait. Donc j'ai juste été demander aux actrices, est-ce que vous avez toujours besoin de moi ? Dans un mois. Parce que je ne vais pas travailler bêtement parce qu'on m'a embauchée. Je dis bêtement, mais en fait, si j'ai besoin d'argent, je vais le faire, hein, bien sûr. Là, il se trouve que c'était une demi-journée de travail qui me restait. Les actrices étaient très claires dans ce qu'ils voulaient. Ils étaient tout à fait capables de communiquer entre elles. Le réalisateur, pareil. La production, pareil. Tout le monde était très clair. Moi, je me suis dit, peut-être je vais juste pas... peut-être qu'il n'y a peut-être pas besoin, en fait. Donc j'ai été demander à mes mentors leur avis. Ils m'ont tous dit, si tu sens que t'es pas nécessaire, c'est probablement que t'es la meilleure personne pour savoir si t'es nécessaire ou pas. J'ai discuté avec les actrices, j'ai discuté avec le réalisateur. Il y a eu plusieurs mouvements de ping-pong comme ça. J'ai discuté avec la production, qui était bien contente de m'entendre dire, peut-être vous avez pas besoin de me payer un jour supplémentaire. Et puis j'ai dit, voilà, maintenant c'est une responsabilité qui est partagée. Si je prends cette décision, c'est pas du tout anodin. Donc j'ai besoin qu'on soit d'accord sur tout ce qui va être mis en place le jour J et après, pour que tout puisse bien se passer. Là, en l'occurrence, c'était pas une scène de nudité, pas une scène de sexe simulé, pas une scène de bisous. C'était vraiment un tout petit contact physique par la main et un câlin, je crois. Et j'étais là, ok, peut-être là, j'ai... Mais c'est très rare, c'est très très rare.
Alors, j'avais aussi une question qui était, grâce à ta présence, est-ce que tu as remarqué une prise de conscience ou un basculement dans les mentalités sur les plateaux par rapport à ton métier ?
Ouais, l'humilité. je dirais pas grâce à ma présence en particulier. Ce que je vois, c'est que depuis 2017 et un petit peu avant, moi je suis arrivée, j'ai commencé ma formation de montage en Belgique en 2017, donc j'ai vraiment... Je suis arrivée et on était en plein dans un MeToo cinéma. On se demande où les graines posées à ce moment-là sont actuellement, mais bon. Mais ce que j'ai pu voir, c'est une évolution dans les discussions, dans tout ce qui entoure ces scènes-là. Je vois aussi que c'est pas du tout systématique, c'est un métier qui est pas encore bien connu, qui est pas bien compris. Souvent, je suis la première coordinatrice d'intimité qu'ils rencontrent, ce qui pose question, parce que moi, ça fait que un an et demi que je travaille quand même. Par contre, ce que je vois, c'est voilà, il y a de plus en plus d'actrices qui savent qu'elles peuvent demander de l'aide, qui ne partent pas du principe qu'ils vont faire ces scènes-là dans la douleur, dans l'inconfort total, et qui se disent oh, en fait, il y a ce job qui peut peut-être m'aider, je vais peut-être en parler à mon réalisateur ou ma production. Même si ça, c'est assez rare parce que c'est une prise de risque énorme, que d'oser dire j'ai besoin de quelqu'un de formé à la coordination d'intimité pour faire cette scène. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a plus de prise de conscience de c'est quoi, comment ça peut m'aider, et on en parle davantage. Et ça, je peux que encourager ça, mais ça s'inscrit dans une ouverture de la parole sur les violences sexistes et sexuelles, sur le racisme au cinéma en Europe depuis des années, quoi. Et pour moi, ça avance encore pas assez vite.
D'où ma dernière question, parce que ça y est, on arrive à la fin. On aimerait poser plus de questions, parce que je crois qu'on pourrait parler de tout avec toi pendant des heures. Comment tu vois l'évolution de ton métier? Et est-ce que ça pourrait, est-ce que ça doit, enfin, pour moi ça doit, mais est-ce que ça pourrait devenir standard sur tous les tournages, les théâtres?
Définis standard.
Quand je dis standard, c'est-à-dire, faut que ça soit automatique, en fait.
Oui. Pardon, je vais développer. Pour moi, la coordination d'intimité, c'est comme la coordination de cascade. À partir du moment où on a une scène d'intimité dans un scénario, comme à partir du moment où on a une scène de cascade dans un scénario, on devrait pouvoir se dire il y a des risques, on va les prendre en compte, on va appeler des personnes formées pour que nos interprètes prennent le moins de risques possible. Pour moi, ça devrait être quelque chose qui devrait être automatisé, je ne sais pas, mais obligatoire, oui. Comme on l'a dans nos voisins anglo-saxons, du Canada et aux États-Unis. En fait, à partir du moment où il y a des syndicats d'actrices qui sont historiques, qui défendent les droits des actrices, c'est obligatoire, avec la SAG-AFTRA notamment, qui est le syndicat des actrices aux États-Unis et au Canada, c'est obligatoire d'avoir une coordinatrice d'intimité dès qu'il y a des scènes d'intimité, de la même manière que dès qu'il y a des mineurs dans un scénario, il faut un responsable enfant formé, obligatoirement. Pareil pour les cascades. Ce qui nous manque aujourd'hui en France, en Belgique, Luxembourg et en Europe, c'est ce levier des institutions politiques et publiques d'amener cette obligation de nous embaucher parce qu'on est les personnes les plus formées pour déterminer s'il y a risque ou pas.
Super. Ben, je te remercie, Sarah, pour ce temps essentiel et précieux que tu nous as accordé.
Avec plaisir.
Merci Milo aussi pour tes questions.
Merci à vous deux.
Retrouvez Sarah Camidien au Centre Le Bourneau en ce début d'après-midi à 14h pour vous présenter son métier si important, la coordination d'intimité. Un rappel de l'agenda des rencontres de ce mardi 18 novembre. Donc pour gérer votre digestion du repas ainsi que du marathon cinématographique du matin, la médiathèque vous propose une sieste musicale à 14h pour rester dans l'ambiance des salles obscures. Au Centre Le Bourneau, à 18h, vous sera proposé un blind test participatif à la cool entre théâtre, musique, jeux, culture et vinyle. Et direction la Pologne avec la projection du film polonais Franka à 20h au cinéma Le Navire en présence de Agnieszka Holland, réalisatrice du film. On se retrouve quant à nous à 17h pour le prochain journal des rencontres où nous aurons la chance de recevoir la star du soir, la réalisatrice Agnieszka Holland, qui viendra nous parler de son nouveau film Franska. Si son nom ne vous dit rien, peut-être que vous avez vu un de ses films, L'ombre de Staline, sorti en 2019, ou Green Border, sorti en 2023, qui a remporté le prix spécial du jury de la 80e Mostra de Venise. Et je vous conseille fortement de les voir si vous ne les avez pas déjà vus. À très bientôt, merci beaucoup.